conte de l'Alhambra, légende de l'astrologue arabe. Il était une fois, il y a bien des siècles, un roi mort nommé Aben Abbous qui régnait sur le royaume de Grenade. C'était un conquérant retiré des affaires. C'est-à-dire qu'après avoir, dans son jeune temps, mené une vie d'hostilités et de déprédations continuelles, maintenant qu'il devenait vieux et faible, il n'aspirait qu'à rester en paix avec tout le monde, à mettre ses lauriers à l'abri, à jouir en repos des domaines qu'il avait enlevés à ses voisins. Il advint cependant que ce monarque, si raisonnable et si pacifique, eut à combattre de jeunes rivaux dans toute l'ardeur de leur passion pour la gloire et les combats, et très décidés à lui demander compte de ce qu'il avait arraché à leur père. Certaines parties éloignées de son territoire, qui, dans les jours de sa vigueur première, n'osaient broncher sous sa main de fer, s'avisèrent, maintenant qu'il aspirait au repos, de se révolter et menacèrent eux-mêmes d'envahir sa capitale. Ainsi attaqué au dedans et au dehors, le malheureux Aben Abbous vivait au milieu des montagnes qui entourent Grenade, dans des alarmes perpétuelles, ne sachant de quel côté commenceraient les hostilités. Ce fut en vain qu'il bâtit des tours d'observation sur les montagnes et qu'il fit garder tous les passages par des troupes stationnaires, qui avaient ordre d'annoncer l'approche des ennemis par des feux la nuit et par de la fumée le jour. Il avait affaire à des gens plus actifs et plus alertes que lui, qui, malgré toutes ses précautions, trouvait toujours moyen de pénétrer sur ses terres par quelques défilés, les ravager et emmenait avec eux beaucoup de prisonniers. Fut-il jamais conquérant paisible et retiré plus tourmenté que le pauvre Aben Abbous? Tandis qu'il vivait ainsi harassé par toutes les tribulations auxquelles il était en butte, un vieux médecin arabe vint à sa cour. Une grande barbe lui descendait jusqu'à la ceinture, et il avait toutes les marques d'une extrême vieillesse. Ce qui n'empêchait pas qu'il n'eût fait le voyage d'Égypte à pied, avec la seule aide d'un bâton sur lequel étaient gravés des caractères hiéroglyphiques. Sa renommée l'avait précédé. Il se nommait Ibrahim Ebn Abou Ajib, et l'on disait qu'il était né du temps de Mahomet et que son père, Abou Ajib, avait été le dernier des compagnons de ce prophète. Dans sa première jeunesse, Ebn Abou Ajib, dont nous parlons ici, avait suivi l'armée victorieuse d'Amrou en Égypte, et s'était fixé pendant plusieurs années en ce pays pour étudier les sciences abstraites, particulièrement la magie, avec les prêtres égyptiens. On disait encore qu'il avait trouvé le secret de prolonger la vie, au moyen duquel il avait déjà atteint plus de 2 siècles. Malheureusement, il était déjà fort âgé quand il découvrit ce secret, et ne put perpétuer que ses rides et ses cheveux gris. Cet étonnant vieillard fut honorablement accueilli par le roi, qui, de même que la plupart des vieux monarques, commençait à prendre un goût décidé pour les médecins et les astrologues. Il voulut loger celui-ci dans son palais, mais l'astrologue préféra une caverne sur la colline, au-dessus de Grenade, et précisément la même sur laquelle on érigea depuis l'Alhambra. Il fit élargir cette caverne et en fit une vaste salle. Une ouverture circulaire pratiquée dans le sommet et communiquant avec l'extérieur permettait de voir, comme du fond d'un puits, les étoiles en plein midi. Les murs de cette salle étaient couverts d'hiéroglyphes égyptiens, de signes kabbalistiques et de figures des constellations et des étoiles. Des instruments fabriqués sous la direction du sage, par les ouvriers les plus intelligents de Grenade, remplissaient la caverne. Mais ces instruments avaient des qualités occultes que le seul Ibrahim connaissait. En peu de temps, il devint le conseiller intime du roi, qui ne faisait rien sans le consulter. Aben Abbous se plaignait une fois, amèrement, à son confident, de l'injustice de ses voisins et de la vigilance continuelle qu'il était forcé d'observer pour se garantir de leurs invasions. Quand il eut achevé ses doléances, l'astrologue le regarda quelques instants en silence et lui répondit ensuite à peu près en ces termes. « Apprends, ô roi, que lorsque j'étais en Égypte, je vis une grande merveille, l'ouvrage d'une princesse païenne des temps passés. Sur une montagne qui domine la ville considérable et plonge sur la grande vallée du Nil, on voyait la figure d'un bélier sur lequel était un coq, l'un et l'autre en airain et tournant sur un pivot. Toutes les fois que le pays était menacé d'une invasion, le bélier se tournait du côté par lequel arrivait l'ennemi et le coq chantait, ce qui avertissait les habitants de la ville qu'ils étaient en danger et leur indiquait le point vers lequel devait se diriger leur défense. « Dieu est grand !» s'écria le pacifique Aben Abbous. « Quel trésor serait pour moi un bélier semblable qui aurait l'œil sans cesse fixé sur ces montagnes qui m'environnent et un coq qui m'avertirait en cas de danger. Allah Akbar, combien je dormirais plus tranquille que je ne le fais à présent dans mon palais si de telles sentinelles veillaient sur son sommet. » L'astrologue laissa passer les premiers transports du roi et continua ainsi. Après que le victorieux Amrou, puisse-t-il reposer en paix, eut achevé la conquête de l'Égypte, je demeurai parmi les anciens prêtres de ce royaume, avec lesquels j'étudiai les rites et cérémonies de leur idolâtrie, cherchant surtout à me rendre maître des connaissances occultes pour lesquelles ils sont si renommés. Un jour que je causais avec un vieux prêtre, assis l'un et l'autre sur les bords du Nil, il me montra du doigt les puissantes pyramides qui s'élevaient comme des montagnes au-dessus du désert. « Tout ce que je puis t'enseigner, dit-il, n'est rien en comparaison des connaissances que referment ces masses gigantesques. Dans le centre de la pyramide du milieu, une chambre sépulcrale contient la momie du grand prêtre qui aida à bâtir cet énorme édifice. Avec ce prêtre est enseveli un livre merveilleux, où se trouvent tous les secrets de l'art magique. Ce livre, qui avait été donné à Adam avant sa chute, passa de père en fils au sage roi Salomon, et lui fut d'une grande utilité pour la construction du temple de Jérusalem. Comment il arriva ensuite à l'architecte des pyramides, celui pour lequel rien n'est caché, pourrait seul le dire. Dès que j'eus entendu ces paroles du prêtre égyptien, mon cœur brûla du désir de posséder le livre. Je pouvais disposer d'une partie de l'armée victorieuse à laquelle je joignis un certain nombre d'Égyptiens, et j'entrepris, avec le secours de leurs bras, de percer la masse solide de la pyramide. Après de longs travaux, je parvins à découvrir un des passages secrets de l'intérieur de l'édifice. Je le suivis et, rampant à travers un labyrinthe effrayant et sombre, je pénétrai à la chambre sépulcrale du centre. celle-là même où la momie du grand prêtre reposait depuis des siècles. Je brisai son enveloppe extérieure et, déroulant les bandages qui serraient son corps, je trouvai enfin le précieux volume. Je le saisis d'une main tremblante et me hâtai de sortir de la pyramide, laissant la momie du grand prêtre attendre le grand jour du jugement dans le silence et l'obscurité de son sépulcre. « Fils d'Abou Ouajib, s'écria Ben Abbous, tu es un grand voyageur, tu as vu de merveilleuses choses. Mais que m'importe à moi le secret de la pyramide et le livre de science du sage Salomon? Je vais te le dire, ô roi. Par l'étude constante de ce livre, je me suis instruit dans tous les secrets de la magie et je puis commander au génie de m'aider dans l'exécution de mes plans. Le mystère du talisman de Burse m'est connu et je puis en faire un semblable et même lui donner encore plus de force. « Oh, sage fils d'Abou Ajib, dit Aben Abbous, ravi de joie, un talisman semblable vaut mieux que mes sentinelles sur la frontière et mes tours d'observation dans la montagne. Donne-moi cette bienheureuse sauvegarde et dispose des richesses de mon trésor. » L'astrologue se mit à l'ouvrage sur le champ pour satisfaire les vœux du monarque. Il fit élever une haute tour sur la cime du palais, en face de la colline de l'Albaïtia, et l'on dit que les pierres qui servirent à sa construction avaient été tirées de l'une des pyramides d'Égypte. Une salle ronde avec des fenêtres donnant sur tous les points de l'horizon occupait la partie supérieure de la tour. Devant chacune de ces fenêtres était une table sur laquelle on avait rangé, comme des échecs, une petite armée, infanterie et cavalerie, avec un roi à sa tête, le tout sculpté en bois. Près de chaque table, on voyait encore une lance de la grandeur d'un poinçon, sur laquelle étaient gravés certains caractères chaldéens. La rotonde restait toujours fermée par une porte d'airain avec une serrure d'acier dont le roi gardait la clé. Sur le sommet de la tour était une figure de bronze attachée sur un pivot et représentant un cavalier mort qui tenait d'une main son bouclier, de l'autre une lance la pointe en l'air. Son visage était tourné du côté de la ville, comme pour veiller sur elle. Mais si quelque ennemi en approchait, il se tournait vers le point menacé et mettait sa lance en arrêt. Aussitôt que ce talisman fut achevé, Aben Abbous, impatient d'éprouver sa vertu, désira aussi ardemment une invasion qu'il la craignait auparavant. Ses désirs furent bientôt satisfaits. Un matin, de très bonne heure, la sentinelle qui montait la garde sur la tour vint avertir le roi que le visage du cavalier de bronze était tourné vers Elvira et sa lance pointait en droite ligne sur le pas de Lopé. « Que les tambours et les trompettes sonnent l'alarme d'engrenade, dit le roi, que chacun prenne les armes. Ô roi, dit l'astrologue, ne trouble pas le repos de ta capitale. N'appelle pas tes guerriers aux armes. La force n'est point nécessaire pour te délivrer de tes ennemis. Éloigne ta suite et montons seuls à la chambre secrète de la tour. » Le vieil Aben Abbous monta l'escalier de la tour, appuyé sur le bras d'Ibrahim Ebn Abou Ajib, encore plus vieux que lui. Ils ouvrirent la porte d'airain et entrèrent dans la rotonde. La fenêtre qui regardait le pas de Lopé était ouverte. « C'est de ce côté, dit l'astrologue, que vient le danger. Approche, ô roi, et contemple les merveilles de la table. » Le roi Aben Abbous s'approcha de l'échiquier sur lequel les petites figures de bois étaient rangées, et vit, à sa grande surprise, qu'elles étaient toutes en mouvement. Les chevaux caracolaient et battaient du pied. Les guerriers brandissaient leurs armes. On entendait en diminutif le son des trompettes et des tambours, le cliquetis des armures et le hennissement des coursiers. Mais le tout ne faisait pas un bruit plus fort que le bourdonnement d'une abeille. « Tu vois ici, ô grand roi, dit l'astrologue, la preuve que tes ennemis sont déjà en campagne. Ils doivent s'avancer par le pas de Lopé. Veux-tu jeter la confusion dans leurs rangs par une terreur panique et les forcer à faire retraite sans effusion de sang? Frappe ces figures avec le bout non ferré de la lance magique. Mais si tu veux au contraire du carnage, frappe avec la pointe. » Une teinte livide parut un instant sur le visage du pacifique Abénaboth. Le mouvement de sa barbe grise montrait le transport qui faisait jouer tous les muscles de sa face. Il saisit la lance en tremblant d'agitation et s'approcha de la table. « Fils d'Abouajib, dit-il, je crois que nous verserons un peu de sang. » En parlant ainsi, il frappa quelques-unes des figures magiques de la pointe de la lance, tandis qu'il touchait les autres avec le bâton. Aussitôt les premiers guerriers tombèrent morts sur l'échiquier, et le reste, se tournant les uns contre les autres, commencèrent pêle-mêle un combat où les chances étaient à peu près égales pour tous. Ce fut avec beaucoup de peine que l'astrologue arrêta la main du plus pacifique des monarques et l'empêcha d'exterminer ses ennemis jusqu'au dernier. Il parvint enfin à le faire descendre de la tour pour envoyer des espions aux montagnes par le pas de Lopé. Ils revinrent et rapportèrent au roi qu'une armée chrétienne s'était avancée à travers la Sierra presque jusqu'aux portes de Grenade, et que, tout à coup, une querelle s'étant élevée entre eux, ils avaient tourné leurs armes les uns contre les autres et, après un combat sanglant, avaient regagné leurs frontières. Aben ne se sentait pas de joie d'avoir ainsi éprouvé l'efficacité de son talisman. « Enfin, dit-il, je vais passer une vie tranquille. Le sort de tous mes ennemis est entre mes mains. Sage fils d'Abénachib, quelle récompense puis-je t'offrir pour un si grand bienfait? Les besoins d'un vieillard et d'un philosophe sont simples et bornés. Ô mon roi, donnez-moi le moyen de faire de ma caverne un ermitage habitable. Je suis content. » Voilà bien la modestie du véritable sage, s'écria Abénaboth, intérieurement très satisfait de la modération de la demande. Il fit appeler son trésorier et lui ordonna de remettre à Ibrahim toutes les sommes qu'il pouvait exiger, soit pour achever de construire son ermitage, soit pour le meubler. L'astrologue fit creuser dans le roc plusieurs chambres qui formèrent un appartement contigu à son salon astrologique. Ensuite, il les meubla de divans et d'ottomanes superbes et tapissa les murs avec de riches tentures de soie de Damas. « Ah, je suis vieux, disait-il, je ne puis plus reposer mes os sur une couche de pierre, et ces murailles humides ont besoin d'être revêtues. » Il eut aussi des bains, pourvus de toutes sortes de parfums et d'huiles aromatiques. « Car, disait-il, les bains sont nécessaires pour combattre les desséchements de l'âge et rendre la souplesse et la fraîcheur à un corps fatigué par l'étude. » Il fit suspendre dans tout l'appartement une quantité prodigieuse de lampes d'argent et de cristal, dans lesquelles brûlait une huile odoriférante, dont il avait trouvé la recette dans les tombeaux égyptiens. Cette huile avait la propriété de brûler sans s'épuiser et répandait une douce clarté. « La lumière du soleil, disait-il, est trop vive, trop éclatante pour les yeux d'un pauvre vieillard, et la lumière de la lampe est celle qui convient pour les études d'un philosophe. » Cependant, le trésorier d'Abenabouth n'accordait plus qu'en rechignant les sommes qui lui étaient journellement demandées pour achever cet ermitage, et il finit par porter ses plaintes au roi. « J'ai donné ma parole royale, » dit Abenabouth en pliant les épaules. « Il faut prendre patience. Ce vieillard veut imiter dans sa retraite philosophique ce qu'il a vu dans l'intérieur des pyramides et dans les vastes édifices de l'Égypte. Mais toute chose a sa fin, et l'ameublement de la caverne en aura une sans doute. » Le roi ne se trompait point. L'ermitage fut enfin achevé et forma un palais souterrain d'une magnificence inouïe. « Maintenant je suis content, » dit Ibrahim Ebn Abou Agib au trésorier. « Je vais m'enfermer dans ma cellule et consacrer tout mon temps à l'étude. Je ne désire rien de plus, excepté une bagatelle, une petite récréation, pour remplir les intervalles entre mes travaux abstraits. Oh, sage Ibrahim, demande ce que tu voudras. Il m'est ordonné de te fournir tout ce qui te sera nécessaire dans ta solitude. Alors, dit le philosophe, je serai bien aise d'avoir quelques danseuses.
Des danseuses ? Répéta le trésorier avec surprise.
Oui, des danseuses, répliqua le sage gravement. Un petit nombre suffira, car je suis un vieillard et un philosophe. Mes habitudes sont très simples et je suis facile à contenter. Qu'elles soient cependant jeunes et agréables, car la vue de la jeunesse et de la beauté réjouit et ranime la vieillesse. Tandis que le philosophe Ibrahim Ebn Abou Agib passait ainsi sagement son temps, retiré dans son ermitage, le pacifique Abenabouth faisait de glorieuses campagnes en effigie dans sa tour. C'était une chose bien commode et bien flatteuse pour un roi de son âge et de son humeur que ce talisman par lequel, tout en s'amusant dans sa chambre, il pouvait chasser de puissantes armées comme des essaims de mouches. Il jouit pendant quelque temps de ce plaisir, et même il insultait parfois ses voisins tout exprès pour les induire à l'attaquer. Mais des malheurs réitérés les rendirent prudents, et enfin aucun d'eux n'osa plus envahir son territoire. Pendant plusieurs mois, la figure de bronze resta sur le pied de paix, avec sa lance perpendiculaire. Et le bon vieux roi commençait à regretter son divertissement accoutumé et à s'ennuyer bien fort de sa tranquillité monotone. À la fin, le cavalier magique tourna subitement sur son pivot et mit sa lance en arrêt en la dirigeant vers les montagnes de Cadix. Abenabouth se hâta de monter à la tour. Mais il fut bien surpris de ne voir aucun mouvement sur la table placée dans la direction indiquée par le cavalier. Pas un de ses petits guerriers ne bougeait. Cette circonstance inquiétant le roi, il envoya une compagnie de cavalerie dans les montagnes avec ordre de les reconnaître et de lui rendre compte de ce qu'ils auraient découvert. Après 3 jours d'absence, ils revinrent et dirent à leur maître « Nous avons parcouru tous les défilés des montagnes sans y découvrir ni lance ni casque. Tout ce que nous avons trouvé dans notre expédition, c'est une jeune fille chrétienne d'une beauté surprenante qui dormait près d'une fontaine et que nous avons emmenée captive. » « Une jeune fille d'une beauté surprenante ?
s'écria Ben Abbouth, les yeux pétillants de joie. « Qu'on l'amène en ma présence !»
On amena donc au vieux roi cette belle personne. Ses habits étaient ornés avec tout le luxe qui distinguait les Goths espagnols à l'époque de l'invasion arabe. Des perles d'une éblouissante blancheur étaient entrelacées dans ses tresses noires. Les diamants qui brillaient sur son front rivalisaient d'éclat avec ses yeux. Une chaîne d'or, autour de son cou, soutenait une lyre d'argent qui pendait à son côté. Les éclairs que lançaient ses yeux noirs et brillants tombèrent comme des étincelles sur le cœur d'Aben Abbouth, qui, malgré sa vieillesse, était encore combustible. Il contemplait avec extase le balancement voluptueux de sa démarche.
« Oh, la plus belle des femmes ! » s'écria-t-il. « Qui es-tu ? Quel est ton nom ? » ?»«
Je suis fille de l'un des princes Goths auxquels ce pays obéissait naguère. Les armées de mon père ont été détruites comme par enchantement dans ces montagnes. Il a été exilé dans son pays natal. Maintenant, sa fille est captive.
« Prends garde, ô roi !» dit tout bas Ibrahim. Cette belle fille pourrait bien être une de ces sorcières du Nord qui prennent les formes les plus séduisantes pour faire tomber dans leur piège les imprudents qui se fient à elle. Je crois lire la sorcellerie dans ses yeux et dans tous ses mouvements. Sans doute c'est là l'ennemi que désignait le talisman.
Fils d'Abou Wajib, répondit le roi. Tu es un grand philosophe, bien plus un grand magicien, je t'accorde cela. Mais tu n'entends rien à ce qui regarde les femmes. Sur ce point, je ne le céderais en connaissance à qui que ce soit au monde, fût-ce le grand Salomon lui-même, malgré le nombre prodigieux de ses femmes et de ses concubines. Quant à cette jeune fille, je ne vois dans ses yeux rien d'effrayant. Et toute sa personne plaît singulièrement au mien.
Ô roi, dit l'astrologue, écoute-moi. Je t'ai procuré un grand nombre de victoires par mon talisman, sans avoir jamais eu la moindre part aux dépouilles des vaincus. Accorde-moi cette captive pour charmer ma solitude avec sa lyre. Si elle est en effet sorcière, j'ai par-devers moi des contre-enchantements qui mettront sa science en défaut.
« Il te faut encore une femme !» dit Aben avec humeur. « N'as-tu pas assez de tes danseuses pour charmer ta solitude, comme tu dis ?»«
Oui, j'ai des danseuses, mais point de chanteuses. Il me faudrait un peu de musique pour reposer et rafraîchir mon esprit quand il est fatigué par l'étude.
« Trêve aux demandes de l'ermite !» dit le roi en colère. Cette demoiselle est destinée à mon harem. Elle consolera ma vieillesse, de même que la jeune Sulamite Abissag consola celle de David.
De nouvelles sollicitations et de nouvelles remontrances de la part de l'astrologue ne servirent qu'à provoquer une réplique plus décisive encore de celle du monarque. Et ils se séparèrent pleins de dépit l'un contre l'autre. Le sage alla s'enfermer dans son ermitage pour y digérer son affront. Toutefois, avant de sortir, il invita encore une fois le roi à se méfier de sa dangereuse captive. Mais quel vieillard amoureux a jamais écouté de tels avis ? Aben Abbouth se livra sans résistance à sa passion. Sa seule étude était de se rendre aimable aux yeux de la belle chrétienne. Il ne pouvait, il est vrai, lui plaire par sa jeunesse, mais il était riche, et les vieux amants sont ordinairement très généreux. On dépouilla le Thakatin de Grenade de ses plus précieuses marchandises. Les étoffes de soie, les diamants, les parfums exquis, Tout ce que l'Asie et l'Afrique offraient de plus rare était prodigué à la princesse. On inventait pour l'amuser toutes sortes de spectacles et de fêtes, des tournois, des danses, des concerts de ménestrels, des combats de taureaux. Grenade devint le séjour des plaisirs. La princesse Gotte regardait tout cela de l'œil d'une personne accoutumée à la magnificence. Elle recevait les attentions et les présents du roi comme des hommages dus à son rang, ou plutôt à sa beauté, car l'orgueil de la beauté surpasse celui de la noblesse. Elle prenait un secret plaisir à induire le monarque fasciné en dépenses qui épuisaient son trésor, et regardait son extravagante profusion comme une chose toute simple. En dépit de ses soins et de sa munificence, le vénérable amant ne pouvait se flatter d'avoir fait la moindre impression sur son cœur. Jamais elle ne le recevait avec un front sévère, il est vrai, mais jamais elle ne lui accordait un sourire. Quand il commençait à parler de son amour, elle faisait résonner les cordes de sa lyre. Ce son avait un charme mystérieux. Dès qu'il frappait l'oreille d'Abenabouth, ce vieillard tombait dans un profond sommeil, dont il sortait ensuite frais, gaillard et momentanément délivré de sa passion. L'effet de cette lyre était on ne peut plus fatal au succès de sa galanterie. Mais comme des songes agréables charmaient ses sens pendant ces instants d'assoupissement, il continua de rêver ainsi près de sa belle, tandis que tout Grenade se moquait de son infatuation et murmurait en voyant ses trésors prodigués pour des chansons. Cependant, un danger sur lequel son talisman ne pouvait lui donner aucun avertissement menaçait Abenabouth. Il y eut une insurrection dans sa capitale, et son palais fut entouré par la populace en armes, qui demandait sa vie et celle de sa maîtresse chrétienne. Une étincelle de l'ancienne valeur du roi se réveilla dans son cœur. Il sortit à la tête d'une poignée de ses gardes, mit les rebelles en fuite, et la révolte fut ainsi étouffée dans son germe. Quand la tranquillité fut rétablie, il alla trouver l'astrologue, qui se tenait renfermé dans son ermitage, rongeant son frein et nourrissant le ressentiment le plus amer contre le roi. Abenabouth l'aborda d'un air ouvert et conciliant. Sage fils d'Abou Agib, dit-il, tu m'avais bien prédit que cette belle captive attirerait sur moi des dangers. Dis-moi cependant, toi qui sais si bien prédire les maux, ce que je dois faire pour les éviter. Éloigner de toi l'infidèle qui les cause. J'aimerais mieux perdre mon royaume, dit Abenabouth avec feu. Tu risques de perdre l'une et l'autre, reprit l'astrologue. Ne sois pas si brusque et si décourageant, ô le plus profond des philosophes. Prends pitié de la double détresse d'un monarque et d'un amant, et trouve quelque moyen de me garantir des infortunes qui me menacent. Je ne me soucie ni de grandeur ni de puissance, je ne soupire qu'après le repos. Ne pourrais-je trouver quelque asile, où, loin du monde, de ses pompes et de ses inquiétudes, je consacrasse le reste de ma vie à la tranquillité et à l'amour? L'astrologue le regarda pendant quelques instants en fronçant ses épais sourcils. « Et que me donnerais-tu, lui dit-il enfin, si je te procurais une retraite semblable? Tu indiquerais toi-même ta récompense, et s'il était en mon pouvoir de te l'accorder, sur mon âme, tu pourrais la regarder comme tienne. As-tu jamais entendu parler, ô roi, du jardin d'Iram, l'un des prodiges de l'Arabie heureuse ?
J'ai entendu parler de ce jardin. Il est cité dans l'Alcoran, au chapitre intitulé « L'aurore du jour ». De plus, j'ai entendu conter de merveilleuses choses de ce même jardin par les pèlerins de la Mecque. Mais je les considérais comme des fables, telles que les voyageurs ont coutume d'en faire.
Ne méprise pas, ô roi, les récits des voyageurs, reprit l'astrologue d'un air grave. Ils renferment de rares connaissances apportées d'un bout de la terre à l'autre. Quant au palais et au jardin d'Hiram, ce qu'on en rapporte généralement est vrai. Je les ai vus de mes propres yeux. Écoute bien ce que je vais te conter, car mon aventure a des rapports très intimes avec l'objet de ta requête. Dans mes jeunes années, quand je n'étais qu'un simple arabe du désert, je conduisais les chameaux de mon père. Un jour, en traversant le désert d'Éden, un de ces animaux s'égara. Je le cherchais plusieurs jours, mais en vain. Enfin, épuisé de fatigue, à l'heure où le soleil est à son méridien, je m'endormis sous un palmier, à côté d'un puits presque desséché. En m'éveillant, je me trouvai à la porte d'une ville. J'y entrai. Je vis de belles rues, de grandes places, des marchés. Mais tout était silencieux comme la tombe. La ville paraissait inhabitée. J'errai de tous côtés et découvris enfin un palais entouré d'un jardin orné de fontaines, de viviers, de bosquets couverts de fleurs, de vergers chargés de fruits. Cependant, aucun être vivant ne se montrait encore dans ce lieu de délices. Effrayé de cette solitude, je me hâtai du sortir du palais et de la ville. Après m'en être éloigné de quelques pas, je me retournai pour la regarder et je ne vis plus rien que le désert qui s'étendait à perte de vue. Je rencontrai, peu de temps après, un vieux derviche très versé dans les traditions et les secrets du pays, et je lui contai mon aventure. « Ce que tu as vu, me dit-il, est le célèbre jardin d'Hiram, l'une des merveilles du désert. » Il apparaît de temps en temps à des voyageurs égarés comme toi, et les réjouit par la vue de ses tours, de ses jardins, de ses murs tapissés d'arbres chargés de fruits. Puis il s'évanouit et laisse à sa place une solitude aride. Voici son histoire. Dans les anciens temps, quand ce pays était habité par les Hadites, le roi Shedad, fils de Had, arrière-petit-fils de Noé, y fonda une superbe ville. Quand elle fut achevée et qu'il vit sa grandeur et sa beauté, son cœur s'enfla d'orgueil et il résolut de bâtir un palais et des jardins qui égaleraient ce qu'on raconte dans l'Alcoran des beautés du paradis. Mais sa présomption attira sur lui la malédiction céleste. Il disparut de la terre avec tout son peuple et sa ville magnifique, son palais, ses jardins, furent placés sous la puissance d'un charme qui les dérobe à l'œil humain, excepté dans certains moments où ils apparaissent pour perpétuer la mémoire de son péché. Cette histoire et les merveilles que j'ai vues ne se sont jamais effacées de mon esprit. Et, dans la suite, quand je me trouvais en Égypte et possesseur du livre du sage Salomon, je résolus de revoir le jardin d'Hiram. Je le retrouvai, en effet, à l'aide de mon livre. J'en pris possession et je passai plusieurs jours dans cette imitation du paradis. Les génies qui le gardent, obéissant à mon pouvoir magique, me révélaient les enchantements par lesquels il avait été construit et ceux qui le rendent invisible. Je puis donc, ô roi, te construire un palais semblable sur la montagne qui domine la ville. Je connais tous les secrets magiques, Je possède le livre de Salomon le Sage. Rien n'est impossible à ma puissance. »
« Oh, fils d'Abouajib, le plus sage des hommes, » dit Aben Abouth, tremblant de désir. « Tu es un grand voyageur. Tu as vu et appris de merveilleuses choses. Que je te doive un semblable paradis et demande la récompense que tu voudras. Fût-ce la moitié de mon royaume, je te l'accorde. »
« Hélas, » répliqua l'autre, « tu sais que je ne suis qu'un vieillard, un pauvre philosophe bien facile à satisfaire. Je ne demande que la première bête de somme qui passera la porte du palais magique avec sa charge. » Le monarque accepta volontiers cette condition modeste, et l'astrologue se mit à l'ouvrage. Il fit ériger sur le sommet de la colline, immédiatement au-dessus de son ermitage souterrain, un grand portail qui passait dans le centre d'une forte tour. Sur la pierre fondamentale de l'arc extérieur qui formait le portail, le magicien grava lui-même une main gigantesque et, sur la pierre fondamentale de l'arc intérieur, au-dessus des portes, il représenta une grande clé. Ces figures étaient de puissants talismans, sur lesquels il prononça des paroles dans une langue inconnue. Quand cette porte fut terminée, il s'enferma 2 jours dans sa chambre magique. Et, le 3e jour, il monta sur la colline et resta jusqu'au soir sur son sommet. À 1 heure très avancée de la nuit, il descendit et se présenta chez Aben Abouth. « Enfin, dit-il, ô mon roi, j'ai terminé mon ouvrage. J'ai érigé sur la cime de ce mont le plus délicieux palais que le génie humain ait jamais inventé. Il réunit tout ce qui peut contribuer au bonheur de la vie. Salon magnifique, jardins ombragés et fleuris, fraîches fontaines, bains parfumés. En un mot, la colline est transformée en un paradis. De même que le palais d'Iram, celui-ci est protégé par une charme d'une grande puissance qui le rend invincible, excepté pour ceux qui possèdent le secret de son talisman.
« C'est assez, » dit Aben Abouth, plein de joie. « Demain, au premier rayon du jour, nous monterons sur la colline et nous prendrons possession de cette heureuse demeure. »
Le monarque dormit peu cette nuit. À peine la lumière du soleil commençait-elle à dorer les pointes de la Sierra Nevada, qu'il monta son destrier et, suivi d'un petit nombre de gens choisis, monta la colline par un chemin étroit et escarpé. À ses côtés était la princesse, montée sur un palefroid blanc. Ses habits étaient resplendissants de diamants, et sa lyre fidèle était, comme de coutume, suspendue à son cou. L'astrologue marchait à pied de l'autre côté du roi, en s'appuyant sur son bâton hiéroglyphique, car jamais il ne montait à cheval. Aben Abouth regardait de tous ses yeux, espérant découvrir au-dessus de sa tête les tours du palais, ses jardins, ses bosquets. Mais il ne vit rien de semblable. C'est en cela que consiste la sûreté, le mystère de ce lieu, dit l'astrologue. On ne peut rien discerner avant d'avoir passé la porte enchantée et pris dûment possession de la place. Quand ils furent arrivés près de la porte, l'astrologue, s'arrêtant, montra au roi la main et la clé mystérieuse gravées sur l'arc et sur le portail. « Les figures que vous voyez, dit-il, sont les talismans qui gardent l'entrée de ce paradis. Tant que cette main ne s'abaissera pas au point de toucher la clé, aucun pouvoir humain, aucun artifice magique
ne pourra triompher du seigneur de cette colline. »
Tandis qu'Abenabouth contemplait bouche béante, dans un silence d'admiration et d'étonnement, ses talismans mystérieux, le palefroid de la princesse avançait toujours et la porta sous le porche au centre de la tour.
« Voici, dit l'astrologue, la récompense que vous m'avez promise, le premier animal qui entre sous ces portes magiques avec sa charge. »
Abenabouth sourit à ce qu'il croyait une plaisanterie du vieillard. Mais quand il vit qu'il parlait sérieusement, sa barbe grise trembla d'indignation.
« Fils d'Abouajib, dit-il d'un air très grave, que veut dire cet équivoque? Tu sais ce que j'ai entendu promettre. C'était la première bête de somme qui entrerait sous le portail avec sa charge. Prends la plus forte mule de mes écuries. Forme sa charge des objets les plus précieux de mon trésor. Elle est à toi. Mais n'élève pas tes pensées jusqu'à celle qui fait les délices de mon cœur.
Qu'ai-je à faire de ton or, de tes richesses? Dit l'astrologue avec mépris. Ne suis-je pas possesseur du livre de Salomon le sage? Tous les trésors de la terre ne sont-ils pas à ma disposition? La princesse m'appartient de droit. Ta parole royale est engagée. Je la réclame comme mon bien.
La princesse, du haut de son palefroid, leur jetait des regards hautains et souriait dédaigneusement en voyant ses deux barbes grises se disputer la possession de sa jeunesse et de sa beauté. La rage du monarque l'emportant sur sa prudence, il s'écria « Vil enfant du désert, tu peux être savant dans plus d'un art, mais reconnais que je suis ton maître. Ne sois pas assez téméraire pour te jouer de ton roi. »
« Toi, mon maître, reprit l'astrologue, mon roi, le souverain d'une taupinière voudrait donner des lois à celui qui possède le livre de Salomon. Adieu, Abenabouth, règne sur ton petit royaume et réjouis-toi dans ton paradis des fous. Quant à moi, je vais rire à tes dépens dans ma retraite philosophique. »
En parlant ainsi, il saisit la bride du palefroid de la princesse, frappa la terre de son bâton et s'enfonça avec la belle dame à travers le centre de la tour. La terre se referma sur leur tête et il ne resta aucune trace de l'ouverture par laquelle ils avaient passé.
Abenabouth demeura quelques instants muet d'étonnement. Enfin, revenant à lui-même, il ordonna à 1000 ouvriers de creuser la terre avec des pioches et des bêches à la place où l'astrologue avait disparu. Ils travaillèrent avec ardeur. Mais ils avaient beau creuser et creuser encore, leurs efforts étaient vains. Leurs instruments étaient repoussés par le rocher en certains endroits. En d'autres, la terre revenait remplir l'ouverture qu'ils avaient faite aussi vite qu'ils l'en avaient enlevée. Abenabouth chercha, au pied de la montagne, l'ouverture de la caverne qui conduisait au palais souterrain du perfide magicien, mais il fut impossible de la découvrir. À la place où se trouvait l'entrée de cette caverne, on ne voyait plus que la roche tout unie. Cependant, la disparition d'Ibrahim Ebn Abouajib fit cesser la puissance de ses talismans. Le cavalier de bronze resta en repos, le visage tourné vers la colline et sa lance pointée vers la place où l'astrologue s'était enfoncé, comme pour indiquer que c'était là que se cachait le plus mortel ennemi d'Abenabouth. Quelquefois, on entendait les sons d'un instrument et les accents d'une voix de femme, à peine distincts et qui paraissaient sortir des entrailles de la terre. Un paysan rapporta un jour au roi que,
La nuit précédente, il avait aperçu une fente dans le rocher, par laquelle il s'était glissé et avait vu, bien loin au-dessous de lui, une salle souterraine dans laquelle l'astrologue, assis sur un divan magnifique, sommeillait en balançant la tête au son de la lyre de la princesse qui paraissait exercer un pouvoir magique sur ses sens. Aben Abûs chercha cette fente du rocher, mais ne la trouva point. Sans doute, elle s'était refermée. Il renouvela ses tentatives pour fouiller la terre. Elles furent aussi infructueuses que les premières. Nul pouvoir humain ne devait surmonter l'enchantement de la main et de la clé. À l'égard du sommet de la montagne, sur lequel le palais et les jardins promis devaient être construits, on n'y voyait qu'une solitude aride. Soit que cet Élysée restât invisible par l'effet du charme, soit qu'il n'eût jamais existé et qu'il ne fût qu'une fable de l'astrologue. Le monde adopta charitablement cette dernière version, et les uns nommaient cette place la folie du roi, les autres le paradis des fous. Pour ajouter au chagrin d'Aben Abûs, les voisins qui l'avaient défié, provoqués et repoussés à son gré lorsqu'il était maître du talisman, s'apercevant qu'il n'était plus protégé par la magie, envahirent son territoire de toutes parts. Et le reste de la vie du plus pacifique des monarques ne fut qu'un tissu de guerres et de troubles. Enfin, Aben Abûs mourut et fut enterré. Des siècles se sont écoulés. L'Alhambra a été bâtie sur la montagne aventureuse et réalise en quelque sorte les délices fabuleuses du jardin d'Iram. Le portail enchanté, qui existe encore dans son entier, protégé sans aucun doute par la main et la clé mystérieuse, forme la porte de justice et la principale entrée de la forteresse. On prétend que le vieil astrologue est encore au-dessous de ce portail dans son salon souterrain, sommeillant sur son divan au son de la lyre de la princesse. Souvent, les invalides qui montent la garde à cette porte entendent ces sons pendant les nuits d'été, et, cédant alors à leur puissance soporifique, s'endorment tranquillement à leur poste. L'influence narcotique de cette place est telle que, même pendant le jour, les sentinelles sont presque toujours assoupies sur les bancs de pierre du vestibule ou sous les arbres voisins. C'est en effet le poste militaire le plus endormi de la chrétienté. Tout cela, disent les légendes, doit se perpétuer d'âge en âge. La princesse restera captive de l'astrologue, et l'astrologue soumise à la magie assoupissante de la princesse jusqu'au jour du jugement. À moins que la main en saisissant la fatale clé ne détruisent l'enchantement de la montagne.